Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman, de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 40 de la saison 4. Nous vous avons laissé la semaine dernière sur Florent qui faisait lui-même l'annonce et le teasing de ce deuxième épisode. Leur histoire est tellement dense, tellement intense, qu'il était impossible de la raconter en un seul. Nous nous retrouvons donc ce lundi, toujours en compagnie de Florent et Benoît, pour évoquer la suite américaine de leur péripétie, qui, elle non plus, n'est pas exempte de difficultés. Quand on vous dit que nos parcours prouvent que nos enfants sont plus que désirés. Dans cet épisode, j'ai aimé la poésie de la métaphore qu'utilise Florent pour arriver à se détacher de leurs échecs en ne personnalisant aucun embryon, mais en pensant que son enfant était caché dans l'un d'eux. Je vous avoue que j'ai été très touchée par cette famille que je ne connaissais que dans un cadre professionnel. Benoît et Florent, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée en acceptant de vous replonger dans ces souvenirs douloureux pour témoigner et rassurer les papas qui se retrouvent confrontés à ces épreuves. Savoir que l'on n'est pas seul est essentiel quand le doute s'immisce dans nos têtes et finit par guider nos décisions. Si vous arrivez sur cet épisode sur le podcast, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui est vraiment utile pour comprendre ce parcours de GPA dans son intégralité. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de nous retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio de mon compte Instagram, @lesenfantsvontbienpodcast. Maintenant, place à l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florent, bonjour Benoît.
Bonjour Constance.
Je vous remercie beaucoup de vous être à nouveau rendu disponible pour l'enregistrement de la deuxième partie de cet épisode et de votre GPA aussi, puisque ça, elle se découpe réellement en, on va dire, au moins en deux parties. On pourrait peut-être presque en faire plus. Je vais inviter nos auditeurs à écouter le premier épisode pour découvrir vos présentations et l'histoire de votre rencontre. Et là, on en était resté après avoir débriefé la partie canadienne de... Alors, on ne va pas dire de votre GPA, parce qu'il y avait une partie qui était déjà américaine à l'époque, mais la partie canadienne de la...
La partie mère porteuse canadienne.
Ah, voilà, la partie mère porteuse canadienne. Maintenant, on va passer à la partie mère porteuse américaine. Pour faire un rapide résumé, en 2018, vous vous étiez retrouvée avec une dernière mère porteuse.
Non, alors en rapide résumé, effectivement, fin 2018, on se retrouvait avec à avoir dû annuler un nouveau transfert avec une deuxième mère porteuse, après donc trois échecs avec une première, parce que celle-ci s'était révélée diabétique. L'agence nous imposait de continuer avec elle malgré le diabète, nous présentait des profils qui étaient manifestement destinés à ce qu'on laisse tomber, puisque c'est pas du tout possible de s'engager dans le GPA avec les femmes qu'on proposait, qui étaient trop âgées, qui avaient des enfants toutes seules et qui pouvaient pas gérer en plus une grossesse sans être supportées par un conjoint, une conjointe. Bref, ça n'allait plus. On était vraiment le couple de la loose pour l'agence canadienne qui nous l'a très bien fait sentir. Et donc, après avoir voulu mettre ça en pause pour attendre, pour souffler, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'arriverait pas au Canada, qu'il y avait trop de demandes, pas assez de main-porte disponibles et qu'on n'était clairement pas la priorité de l'agence. On était même leur talon d'Achille, qu'on les embêtait un peu avec parcours chaotique. Et donc, on a effectivement décidé début 2019, c'est ça, de laisser tomber l'agence canadienne, bon, et de laisser tomber tous les investissements financiers qu'on avait fait là-bas.
Évidemment.
Et de contracter avec une agence américaine à Las Vegas. Donc, nos embryons étaient effectivement déjà en Californie et eux n'ont pas bougé, ils sont restés en Californie.
Avec quoi ? Avec la clinique.
Avec une clinique. Et donc, on a contracté avec une nouvelle agence américaine. Et là, tout de suite, c'est ce que disait effectivement Benoît dans la fin du premier épisode. On a une différence absolument majeure, c'est le rapport avec nous, qui est un rapport, certes, de clientèle. On a un service et ils sont là pour qu'on soit content. Mais le service n'était pas que vous ayez un bébé. C'était que l'expérience soit bien. Et on a été soutenu du début à la fin, puisqu'on a continué à avoir des galères après, qu'on va vous raconter. Mais on a été vraiment soutenu. Et là, pour le coup, à chaque fois que quelque chose n'allait pas, alors qu'au Canada, c'était le couple qu'on met sous le tapis. Là, c'était OK, le couple qu'on remet en haut de la pile parce que ce n'était pas possible. Ouais. Et donc, c'était pas possible. Donc ça, c'était génial. Donc effectivement, début 2019, on se remotive, on contracte avec une agence que des amis nous conseillent. Et assez rapidement, là aussi, on nous propose un profil. Et même là, cette fois-ci, on a douté. Parce qu'en fait, ils nous avaient tellement dit, vous savez, ici, on prend soin de sélectionner, on prend soin de leur faire des examens à l'avance, ce qui fait qu'on ne vous propose un match qu'une fois que tout est validé, que lorsqu'on nous a écrit quelques semaines après en disant « Ah, bah finalement, j'ai pensé à vous, parce qu'on a cette jeune femme qui est formidable, qui fait pour vous. » En fait, elle vient de rentrer, on n'a pas encore eu le temps de tout valider, on s'est dit « ça recommence. »
Ouais, c'est clair.
C'est pareil, c'est le même discours, on nous présente quelqu'un. Bon. Mais,
ouais, vas-y. Non, c'est validé, juste pour préciser, c'est que les mères porteuses, une fois qu'on est match avec elles, elles doivent passer un certain nombre d'examens avec la clinique. Et dans ce hop, pour être un peu validé au niveau médical.
Okay, pour être sûr que tout va bien pour elles.
Et là, ce que nous avait vendu l'agence, c'est que nous, toute cette partie médicale, on l'a fait aussi en amont pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la validation médicale de la clinique. Donc ouais. Ça fait gagner un peu de temps. Et là, l'agence nous avait interpellé.
Un peu de temps, et aussi, ça nous évite de nous investir, parce qu'on s'investit tout de suite avec quelqu'un pour qu'on nous dise après, ah, bah, finalement, elle est malade.
Ou elle peut pas, parce qu'elle n'a pas,
c'est possible. Bon.
Donc là, ça nous a un peu interpellé le fait qu'il y avait une petite différence entre, oui, on valide avant, et puis là, on vous propose quelqu'un qu'en fait, on n'a pas validé médicalement de notre côté. Mais bon, ils ont été transparents.
Oui, mais on a quand même douté, on s'est dit, en fait, c'est un discours commercial, mais bon, alors, on apprend nos erreurs et pas tellement, on s'est quand même dit, est-ce qu'on fait warning, qu'est-ce que c'est ce discours qui n'est pas cohérent, et donc on dit non, ou est-ce que, comme le profil est sympa et que bon, tout a l'air sympathique, allez, on se tente. Et on a quand même dit, allez, on retente, parce que nous, le temps passait, on n'avait pas envie de réattendre longtemps, on avait peur. Donc, on a dit, OK, donc là, commence un match. Et là, c'est vrai que le premier Skype qui se faisait, alors, en présence de l'agence, ce qui n'était pas le cas des autres, on nous avait donné nos contacts respectifs, là, l'agence nous fait un Skype, parce qu'en gros, on nous dit, voilà, on se présente les uns et les autres, on discute, et même après, l'agence nous a dit, je me retirerai du Skype pour vous laisser finir. En revanche, on vous donne pas vos contacts tant que le contrat n'est pas signé. Donc, c'est un premier contact entre vous direct, mais ensuite, les contacts ne seront pas directs tant que le contrat n'est pas signé. Donc, d'un côté, c'était « Ah, on fait un premier Skype, mais après, on ne se reparlera plus. Bon. » Alors déjà, il se trouve que le Skype lui-même a été effectivement génial. Il a ressemblé à tout ce qu'on nous avait décrit d'avant, de « Ah, vous verrez, ce sera super. » Elle était, Beverly et son mari, les deux étaient présents, hyper positifs. Bon, évidemment, ils souriant, posant des questions. Ils étaient au courant. De la difficulté de notre parcours d'avant, c'était pas caché. On avait fait un petit film de présentation parce que ça, dans le package de se vendre, on nous propose. Et donc, c'est vrai qu'on avait bien investi nos petits clips qui étaient assez sympas, franchement. Donc, il y avait matière à en parler et du coup, on nous avait beaucoup rebondi dessus. Voilà. Et elles nous expliquent leur projet. Donc, eux, un jeune couple, ils avaient à l'époque juste 30 ans, parce que non, je crois qu'elle avait fêté les 30 ans pendant les premiers mois. Juste 30 ans, ils avaient une fille et puis. Pas d'envie d'avoir d'autres enfants, et elle avait travaillé dans une clinique de fertilité, donc au contact des gens, et donc en gros, on a envie d'aider. Bon, ce qui est un discours qui est assez fréquent. Bon, là, on le sentait qu'il était réel. On a envie d'aider et tout. Et donc, je sais plus comment on parle, mais Marie, la jeune femme de l'agence, s'en va et nous, on a continué. Enfin, vraiment, c'était sympa. On a encore des captures d'écran. On était à l'aise. Et c'est vrai qu'on était à l'aise. Et on est ressorti de là, nous, plutôt content, ouf, parce que dans tout ça, faut pas oublier, voilà, qu'on crée une relation. Une relation qui vient un peu de, qui vient un peu de nulle part, donc une relation qui n'est pas facile à créer. Ouais. Donc si déjà ça part bien, on se dit, ah, un premier truc, ok, bon, on a l'air de.
Ouais, les bases sont bonnes, quoi.
Bah voilà, on a l'air de fitter déjà notre esprit. Les bases sont bonnes et sympa. Bon, très bien. Donc là, c'était en février, monsieur, on était au ski, là, février 2019. Ok, super, on avance dans les. Bon, elle va faire son screening finalement, tout va très bien, c'est déjà ça. On avance dans les papiers. Et là aussi, on se dit, ah, disons que ça y est, on a touché le fond, on remonte. Les premiers examens et ce qu'ils appellent le mock cycle, donc le cycle, un cycle faux, normalement un cycle d'essai de Beverly se passe tellement bien qu'on nous propose, on nous prévient en dernière minute de le transformer en vrai cycle. C'est-à-dire que ça réagit tellement bien, elle est en forme, elle va bien, elle est contente, les feux peuvent pas être plus au vert. Allez, on y va. Donc là, je me souviens qu'on s'est grouillé parce qu'il fallait qu'on finisse les contrats, qu'on finisse des trois trucs. Gros speed. Pour faire, du coup, un premier transfert auquel on décide de se rendre. Je me souviens qu'on en trois jours, on a dit clair qu'on pose 3 jours, on va en Californie parce qu'on voulait les rencontrer aussi. Et donc, on fait un aller-retour. Alors, c'est très glamour de dire ça comme ça. On fait un aller-retour à San Diego. Bon, en vrai, tout ça est un peu fatigant, un peu. Mais bon, hyper sympa. On prend un petit déjeuner, je me souviens. Parce qu'on commençait à connaître San Diego. Hein, donc, on commençait à avoir des
Des habitudes.
C'est hyper sympa. Surtout, on va les chercher à leur hôtel, donc on se tombe dans les bras. Et pendant une journée et demie, parce que leur séjour là-bas dure à eux une journée et demie, cool, on a été leur chauffeur, mais pas dans le sens où on les a transportés, mais on a passé la journée et demie avec eux, alors que les autres, on s'était juste rencontrés. Et puis après, ils étaient partis là, on va à l'hôtel, ils avaient un cadeau pour nous, c'est bête, mais voilà, ils avaient fait des petites démarches, on a pris un petit déjeuner ensemble, cadeau, on est allé au transfert. Le transfert, donc hyper émouvant. Eux, ils étaient à fond, petit symbole. On a mis des, parce que je sais pas si c'est le cas d'ailleurs en France ou en Europe, mais l'ananas, c'est un symbole de fertilité aux États-Unis. Et donc, elle avait des ananas partout. Enfin, ils avaient offert des cadeaux. Ils avaient offert une petite lampe en ananas qui est toujours dans la chambre de Gaston. Donc, bon mood. On arrive à San Diego où toute l'équipe commençait aussi à nous connaître. Et donc, bon, le transfert se passe. Donc, c'était la deuxième fois qu'on assistait à un transfert. Bon, on n'en a pas parlé, mais c'est un moment aussi anodin. Enfin, la plupart de vos auditrices le savent, mais aussi anodin que hyper émouvant pour nous. Franchement, on était derrière. Nous, on dit rien. On est derrière. Elle nous sourit. Petit selfie. On nous montre la photo de l'embryon. Et puis après, le process lui-même, on suit par des petites caméras le chemin de l'embryon où il y a notre nom sur la petite fiole jusqu'à nous. On voit l'infirmière arriver avec son embryon comme ça. Enfin, tout ça. C'est vrai que c'est super émouvant même pour nous.
Je me doute.
Et le transfert se passe. Et puis, bonne ambiance, super. Bon, là, petite fatigue. On se dit, OK, on se retrouve. On va chacun faire la sieste et on se trouve ce soir. OK, très bien. Et là, on se retrouve dans San Diego. Et on se dit, on va boire un verre. Mais vraiment, on était détendu. Alors, la première fois, c'était chacun était resté à son hôtel. Là, on va boire un verre et tout. Bon feeling et tout ça. Donc, on commence. Et là, lui commande une bière. Et alors, c'est un petit détail, mais franchement, ça nous a mis dans le bon esprit, en fait. Ouais. Il commande une bière et elle commande un verre de vin. Et là, on se regarde avec Benoît, on dit, c'est-à-dire qu'elle a l'embryon dans le ventre depuis exactement 5 heures. Elle commande un verre de vin, alors qu'en plus, elle se décrivait très.
Végétarienne.
En même temps, bonne vivante, hein, parce que. Ils sont en train d'ouvrir une brasserie livre et bière dans leur ville, avec son mari. Et elle prend un verre de vin, et là, en 2 secondes, on se dit, OK, donc on se souvient que dans le processus de GPA, contrairement au processus des PMA où vous maîtrisez, On est ceux à qui on va faire le cadeau. Ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre grossesse. C'est très clair dans la tête de tout le monde, mais d'ailleurs dans la nôtre. Et dans les discussions, il y a, moi je suis végétarien, mais je veux dire, si toi t'es pas végétarien et que t'as envie de manger de la viande, on va pas t'imposer de pas manger de viande. Et l'inverse, on va pas t'imposer d'en manger si t'es. Voilà. Et donc, en 2 secondes, on se dit, est-ce qu'on passe pour les mecs qui sont en mode contrôle de ton corps, dis donc t'es mignonne, mais tu enlèves tout de suite ce verre de ta bouche parce que c'est nos bébés, ou pas possible, ça va partir, et puis, tant pis. Et en même temps, on pouvait pas ne rien dire. On s'est dit, putain, si on est tombé sur une folle furieuse et qu'en fait. Et donc, en deux secondes, je me suis dit, très bien, j'avais l'intention de prendre un soft pour t'accompagner, mais puisque tu prends un verre de vin, c'est super, j'en prends un aussi. Et là, elle tilte, en fait, je pense. Elle dit, oh pardon, mais ça vous gêne? Non, parce que vous savez, à ce stade-là, il n'y a pas de place interne, donc il n'y a aucun échange. Elle commence à nous expliquer des trucs, et ça nous a totalement détendu. Alors bon, je ne sais pas si c'est le discours qu'on aucun pédiatre nous aurait dit, mais ça nous a détendu sur le côté, non mais les gars, on se détend, je sais ce que je fais, déjà j'ai eu un bébé, et puis j'ai travaillé dans des cliniques, je sais ce que j'ai réfléchi à tout ça. Et donc, on dit, ah, pas de problème. Et puis, elle a pris un verre, et je veux dire, très, très.
Oui, c'est pas minable, quoi.
Non, c'est pas moi, fêtez ça, et claque. Mais en fait, ça nous a donné tout de suite un signe de, OK, elle est en contrôle, mais elle est détendue. Ce qui est quand même, c'est pas facile d'être détendue quand on est au bout du monde. Donc, si on est déjà content qu'elle le soit, surtout notre toute première mère porteuse, pour ceux qui ont écouté le premier épisode, était plutôt en mode stress, elle nous balançait tout, elle nous reprochait ses douleurs, ses sacrifices, tout. Enfin, c'était horrible. Et bon, là, super. Et nous, clairement, on est en mode, on a touché le fond, on a changé de pays, on a changé d'agence, on est une troisième importeuse et cette fois-ci, on tombe sur quelqu'un avec qui on fit. On a oublié de le dire, mais on a épuisé tous nos embryons qui avaient passé les tests. Enfin non. Parce que tout ça, on en est quand même au cinquième essai, mais seulement deux embryons ont été utilisés puisque le troisième avec la première importeuse
n'a pas été transféré.
Donc c'est notre cinquième essai, mais seulement troisième embryon, donc c'est encore un embryon qui a été sélectionné, si je puis dire. Donc on se dit, là, c'est bon. Et c'est vrai qu'on, tout en se disant, bon, ça peut marcher, on n'imaginait pas, on s'est dit, bah là, si ça marche pas, en fait, c'est la fin du monde.
Moi,
j'étais vraiment en mode, je disais à ma psy, pour moi, c'est très, très clair, on va vers la falaise, et soit on tombe, soit on prend le petit chemin qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, mais qui est sur le côté, et c'est bon, on reste sur la falaise. Je me souviens que c'était la Gay Pride, c'est la première Gay Pride que je faisais donc c'était en juin 2019. J'avais créé une association d'avocats LGBT, on était sur notre char, c'était énorme et tout.
Oh, trop bien! J'aurais aimé voir ça.
Et on avait eu, donc, quelques jours avant, un test urinaire positif, comme on aime les voir positifs, c'est-à-dire, franchement, sur la photo, c'est pas très clair, mais enfin bon, elle nous dit qu'elle voit quelque chose, mais bon, on sait pas. Donc, on se dit, ok, c'est bon, c'est pas très clair, mais c'est bon. On attend. Puis, premier test bêta. Positif, avec un taux quand même qu'on n'aime pas trop, mais bon, il y a des discours assez différents en Amérique, c'est pas tellement le chiffre, c'est juste qu'il faut que ça double, mais quand même, avec le recul, on a quand même toujours eu, nous, dans nos embryons, toujours eu des taux assez bas, même dans Gaston qui a marché. Bon. Mais là, on a un petit truc, pas trop, on nous dit, oh, il faut que ça double, ok. Enfin, non, il faut que ce soit plus 66%, je me souviens. Et nous, on s'est dit, ah bon, ils sont passés à plus 66%, alors qu'il y a deux ans, il fallait que ça double. Bon. Et deuxième test bêta, plus, je crois, c'était genre un plus... Non. Deuxième test bêta, négatif. Et là, je me souviens, on était au restaurant.
C'était en juin.
On était au restaurant, c'était le 4 juillet, jour de ma fête, puisque le lendemain, mes parents me souhaitaient bonne fête, et je dis, attendez, excusez-moi, pas possible. Et là, on était au restaurant là, pour attendre le deuxième bêta. Et en plus, c'est annoncé par l'agence américaine, par mail, en même temps... La mère porteuse, ça c'est un truc qui est fou, n'a pas accès aux résultats. Et c'est la clinique qui nous balance. Hein, on trouve ça même violent pour elle. Et là, je me souviens, Benoît, tu te levais de table. Franchement, alors là, le coup, l'émotion monte parce que là, c'était. Là, on a commencé à dire on était maudits. C'était le drame absolu. Benoît se levait de table et je lui dis ah, attends, ça y est, on a le mail. Et j'ai juste le temps de lire I'm so sorry. Et je dis à Benoît oh, c'est fini. Alors là, bon, là, on est parti. On est parti du resto. Les pleurs comme jamais j'avais eu, c'était des pleurs de désespoir absolu, en disant c'est foutu, et en même temps écrire des textos à Beverly, bon allez c'est pas grave, mais nous là, on s'est dit, bah, on a tout changé, là il y a quelque chose qui fait que c'est pas possible, trois mères porteuses, deux agences, deux pays, quatre embryons, six essais, pas possible.
Je crois que c'est le moment le plus dur. Même par rapport aux autres qui vont arriver.
Ouais, parce que là,
je pense que là, on y croyait encore et que c'était un peu là.
Ah bah là, on est tombé.
La grosse douche froide.
Oh, si ça marche pas là, c'est foutu. Ouais. Et bon, et pour le coup, alors là, on peut résumer parce que il y a eu encore deux essais ratés après.
Oh mon Dieu.
Donc avec cette même Beverly qui était pourtant elle à mort à fond et tout allait très bien. Donc après cet essai en juillet 2019. Septembre 2019, puis décembre 2019, deux échecs à nouveau. Et donc, on arrive à la fin. Tu le disais plus à tes parents, on n'en parlait plus, on voyait plus personne.
Moi, je crois que l'avant-dernier, le troisième, ça a été le troisième échec, donc en décembre. Pour moi, c'était
le plus terrible. Terrible. Et là, les médecins nous disant toujours, bon, il n'y a toujours pas de raison. nous, on n'arrêtait pas de leur dire, mais est-ce qu'il faut refaire les embryons? Est-ce qu'il faut donner un autre sperme? Mais tout allait bien dans le sperme, tout allait bien dans les embryons, il n'y a toujours pas de raison. Tout va très bien chez Beverly, qui a parfaitement réagi aux trois cycles. Mais donc, on arrive à la fin des trois, et donc, ils nous disent, on vous propose le protocole habituel. Il faut changer la porteuse, et là, on leur dit non. Mais ce qui fait que nous, je pense qu'il y avait un côté, on le sent avec elle, et aussi, probablement, après, c'est fini. C'est pas possible.
Ouais, c'est ça. C'était.
Puisqu'on ne se donne pas la possibilité de changer.
On voulait pas aussi se réinvestir.
Se réinvestir.
Ça faisait quand même combien de temps?
Ça faisait un an et demi.
Un an, quand même.
Et puis là, pour le coup, pendant ce temps, les échanges WhatsApp, c'était très sympa.
Tous les jours.
Et spontané. On s'est jamais fait de vidéo en live. On n'était pas très vidéo avec Nino. Mais par contre, des petites photos tout le temps. Et là, donc, leur dit non, nous, changement de main porteuse. On comprend que c'est votre premier conseil.
On a demandé à Beverly d'abord.
Oui, déjà. Est-ce qu'elle veut bien continuer? Parce que le contrat, c'était trois essais.
Bah, oui, bien
sûr. D'accord pour continuer. Et là, on s'est dit, si elle dit non, j'en ai marre, parce que ça fait un an que je me shoot, super. Elle dit, les enfants, les garçons, on continue jusqu'à ce que vous ayez un bébé, on re-signe un avenant s'il faut pour trois, mais on continue. Donc là, déjà.
Puis surtout, elle avait toujours, elle, cette énergie positive.
Oui. Elle n'était pas du tout dans le qu'est-ce qui se passe, mon corps va pas.
Non,
je suis désolé. C'était un peu genre, c'est comme ça, les enfants, c'est la nature. On voyait qu'elle était de ce milieu-là. Bon, voilà.
Ouais, elle était. Moi, ça m'a aidé.
Je vois
qu'elle était clairement. En mode win. C'était.
Ouais.
Donc, on dit OK, elle veut continuer, c'est déjà ça. Très bien. L'agence, la clinique nous dit qu'il faudrait changer. Enfin, on vous conseille de changer, mais vous ne voulez pas. On comprend très bien, ils ne nous challenge pas du tout. Non. OK, on continue. D'autant qu'ils nous disent, d'autant que tout va très bien chez Beverly. Et nous, on leur dit attendez, les embryons, qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, si, là, on a tout changé jusqu'à présent. On a changé les mères porteuses, on en a eu deux. On a fait six essais. On avait épuisé cette fois-ci le stock d'embryons qui avait été sélectionné. Donc là, on était dans les embryons non testés. Donc, ils pouvaient très bien ne pas s'accrocher de toute façon. Et donc, par principe, on descendait en grade. Alors, je sais que ça ne veut pas dire que c'est purement visuel, mais enfin, quand même, on entend dire qu'on descend en grade d'embryons. Donc, c'est un petit peu flippant. Et puis, on descend en stock aussi. Hein, on en avait 15 quand même au début.
15, waouh.
Ah ouais, 15. On en avait
équipe de foot, quoi.
19 qui ont été fécondés, 15 qui sont restés, 4 qui ont été supprimés par le PGS, donc on en avait 11 à implanter. Et là, on en avait implanté 1, 2, 3, 4, 5. Et donc il nous en restait 6. Et elle dit OK, on continue. Et donc l'agence, la clinique lui dit bon, vous voulez pas changer la porteuse? Très bien. Pour nous, changer des embryons, il n'y a pas de raison. Enfin, un jour ou l'autre, si vous voulez, il n'y a pas de raison. Mais... En revanche, la prochaine étape, pour nous, c'est évident, c'est d'en mettre deux. Parce que oui, on n'a pas dit, mais jusqu'à présent, on avait toujours mis un seul embryon. Parce que, déjà, on se disait, est-ce qu'on arrivera à faire des jumeaux? Et parce qu'on était très inquiets pour la question de l'assurance qui se pose beaucoup en matière de GPA, puisque vous savez qu'on paye tout aux États-Unis, qu'on n'a pas la sécu, et que la néonate, les gens ne le savent pas en France que ça coûte de l'argent, un accouchement et une néonate parce que c'est remboursé, on le sait, mais ces gens, c'est entre 6 et 10 000 euros par jour. Alors, déjà, pour un bébé qui a un petit pépin, c'est une chose, mais pour des jumeaux qui ont toutes les chances de naître avant, même s'il n'y a pas de choses graves, rien que si c'est 15 jours de néonat, on est mal.
Moi, j'ai reçu la facture pour les triplés, je peux te dire que...
Ouais.
Alors,
pourquoi j'en reçois cette facture avec 5 chiffres, presque 6
ouais, c'est ça. Pour peu qu'ils naissent vraiment en mode, il y a eu un petit pépin, ils naissent à des prématurés à 7 mois, et qu'on doit rester un mois à la maternité, ça nous ruinait la vie. Enfin, ça veut dire
qu'on c'est clair.
Tout le monde nous disait, oui, mais vous savez, les gens ne payent pas. Entre eux, on paye pas et on a quelqu'un en Amérique qui un jour peut venir nous saisir ou juste on peut pas y retourner. Enfin bon, bref, c'est une angoisse qu'on voulait pas. Ouais. Et puis, de toute façon, ce qui nous a été, on s'est pas challengé non plus. Beverly a d'abord dit, écoutez, pourquoi pas? Et puis après, elle a dit, écoutez, je le sens pas. Donc, en fait, on était raccord. On était raccord.
Moi, j'étais soulagé qu'elle dise non parce que franchement,
on avait trop peur.
J'avais trop peur.
Alors, bien sûr que quand on se met face, on se dit, est-ce qu'on préfère 0 ou 2 d'un coup? Évidemment, on était prêt à vouloir 2 d'un coup. D'où la proposition, mais, on était très content que personne ne nous challenge, que la clinique ne nous challenge pas, que Beverly challenge, et qu'on dise juste on continue, ça ne peut pas ne pas marcher. Même si.
Mais ça, je crois que cette question d'en mettre deux s'était posée pas au dernier échec du décembre.
Non, déjà avant, peut-être.
Celle d'avant. Ce qui s'est posé comme question après le dernier échec de décembre, le troisième échec avec Beverly, c'est de savoir si effectivement on devait pas, vu qu'on voulait pas changer les autres éléments de l'équation, est-ce qu'on voulait pas rechanger le de donneur et donc refaire des embryons.
Voilà, c'était la bonne question.
Oui.
Et on a...
Parce que voilà, nous, dans notre histoire, juste, on a eu un seul donneur, c'est notre choix depuis le début, et pas du tout pour des raisons médicales, donc on aurait pu, mais moi j'avais toujours eu, toujours projeté dans une paternité construite, ça m'excitait beaucoup, et Benoît, quand on avait discuté, très vite, il a dit, moi l'adoption, je sens pas trop, parce que j'ai l'impression que je vois, comme il a expliqué la dernière fois, j'ai l'impression que je dois transmettre. Donc très vite, on dit, ah bah très bien, bah on n'a qu'à faire une GPA, c'est toi qui donneras et moi je serai personnel social. Ok, très bien. Et ça n'a jamais été challengé. On s'est construit comme ça.
Donc là, ça remettait un peu en question. Moi, ça, j'aurais dit évidemment oui s'il y avait eu. Parce qu'on a décidé en fait de ne pas faire ça maintenant et de se donner le non, se poser la question après le quatrième.
On n'avait pas décidé. Là, c'était la fin d'un an. De se poser la question après le troisième. Enfin, là, après le troisième, c'était ok, c'est foutu. Là, on avait pris rendez-vous avec un nouveau médecin. On se dit, voilà. Donc, on n'a pas assez à ce moment-là.
Donc, c'était sur le tapis, mais on n'a pas pris la décision de faire quoi que ce soit parce qu'on a eu autant un autre médecin de la même clinique. Qui est intervenu à la demande de son collègue d'ailleurs pour nous dire que alors je crois que c'était il y avait une
alors, proposer une alors en fait après proposer nous on l'a dit voilà on veut avoir une sorte de deuxième avis
parce
que l'autre médecin nous dit bah il y a rien je peux pas vous expliquer il y a rien et elle nous confirme bah oui il y a rien tout est bien fait très bien effectivement même si on peut pas vous expliquer pourquoi la prochaine étape c'est peut-être de refaire des embryons après tout tentons et si vous voulez faire des embryons donc on était tout début 2020. Si vous voulez faire des embryons, ce serait dommage, elle nous explique, ce serait dommage que vous ne donniez pas tous les deux votre sperme, parce que pour peu que ça ne marche toujours pas avec l'autre, vous aurez toujours en tête de dire, et si ça se trouve, même si les médecins nous disent que non, si ça se trouve, il y a un problème avec un sperme, il faut qu'on essaye avec les deux. Donc là, c'est vrai, comme dit Benoît, tout en, d'un côté, on n'a pas hésité, on s'est dit, bon, bien sûr qu'on va faire ça, on préférera en avoir, je veux dire, on se rééquilibrera. Mais c'était pas si facile que ça, donc ça nous re-challengeait sur notre processus.
C'est pour ça qu'on s'est dit, mais elle nous a proposé aussi autre chose, en nous disant, voilà. Et d'ailleurs, on pouvait aussi changer un petit peu la méthode, qui était, ça avait trait à la décongélation de l'embryon, d'attendre un petit peu plus longtemps.
Non, c'est pas que ça, c'était, puisque vous avez décidé de faire des embryons, ça va prendre un peu de temps, donc je vous propose donc il vous en reste 6 que vous avez décidé de détruire, et bien je vous propose de faire un essai. On en décongèle un nouvel essai. On en décongèle non pas un, mais 3. Mm-hmm. On ne met pas les 3, puisque vous n'êtes pas d'accord, mais on en décongèle 3. Et au lieu de les faire attendre 2 heures avant l'insémination, on les fait attendre toute une nuit, parce que si ça se trouve, on se rendra compte qu'en fait, effectivement, sans qu'on le sache, vos embryons ne tiennent pas, ils durent 2 heures, et en fait, à chaque fois, ils meurent tout seuls. Et bon, voilà. Donc là, c'était
début 2020. Comment tu sais? Tu sauras quoi?
On se dit, il y a manifestement un truc, les embryons, ok.
Et
là, on est début mars 2020. Et qu'est-ce qui arrive début mars 2020?
Notre COVID.
Et donc, avant même que ça ne devienne une réalité chez nous, le travel ban américain.
Ouais, exactement.
Que nous, au moment où on décide de refaire des embryons, on apprend qu'il n'y a plus. Si, puisqu'elle a dit, si, on l'avait décidé, on fera un petit check pour moi et moi après.
Pour moi, j'ai l'air.
On l'avait décidé, puisque c'est la raison pour laquelle on avait décidé d'en faire, qu'elle nous a dit, puisque ceux-là sont foutus, décongélons 3 et le temps que vous refassiez vos embryons, on a le temps de faire un nouvel essai. Mais on était prêts. Sauf que, bam, interdiction de voyager. Donc là, heureusement qu'on avait un recul à l'époque parce que on s'était dit, oh là là, zut, on va pas pouvoir voyager pendant peut-être 1 ou 2 mois, on le sentait bien. Mais si on avait su que c'était parti pour 1 an et demi sans aller aux États-Unis, c'était mort.
Non, mais c'est clair.
Parce que quand même, on peut le dire, un petit spoiler, ça y est, c'est la fin des emmerdes, c'est le bébé miracle de dernière minute. Et donc,
finalement, ils tenaient ces embryons.
Il était caché au numéro 10, ce petit coquin.
L'attaquant.
L'attaquant.
Ça, c'est vrai.
Et donc, elle nous dit, écoutez, on en décongèle 3. Et donc, le rendez-vous de transfert est prévu pour le 6 mars, sachant que le travel ban, ça a été genre le 1 ou le 2 mars, je sais plus. Nous, on n'était pas encore confinés. 6 mars, donc Beverly va là-bas. Alors, on est en direct, on suit les 3 embryons ont bien été décongelés. Les 3 embryons se sont magnifiquement développés dans la nuit. Manque de bol. Enfin, c'est super, mais du coup, ça ne nous aide pas.
Du coup, t'en perds 2.
Donc, on avait bien dit au médecin, ah, s'il vous plaît, on ne change pas, vous mettez le meilleur des 3.
Vous ne loupez pas, mettez pas les 3.
Vous mettez le meilleur des 3, et puis tant pis, il y en a 2 qu'on a décongelés pour la beauté du geste. Et donc, l'insémination le 6 mars et test de grossesse le 17 mars, donc le jour du confinement. Je me vois, moi, en train d'installer mon petit bureau, mon petit cabinet, Benoît est venu dans la chambre en disant, oh, c'est positif. Et je me souviens avoir dit, qu'est-ce que ça fout là, ce test positif?
Bah, ça alors.
Bon, mais en même temps, on se souvient qu'on avait déjà eu plusieurs tests positifs, premier test positif, donc vraiment, c'était, très bien. Évidemment, on a envie d'y croire, mais vraiment, moi là, je me suis.
Moi, j'y croyais plus que toi, en fait.
Et moi, entre temps, dans mon cahier, j'avais arrêté d'écrire mon cahier dans lequel, parce que je tenais un cahier depuis 3 ans, dans lequel je parlais au bébé. Et genre 1 an et demi avant, j'avais fait un dernier mot dans lequel je ne parlais plus au bébé. J'écrivais, mais en fait, tout ça, c'était une connerie. Enfin, j'écrivais mon journal, mais j'arrivais plus à lui parler au bébé en lui disant « Tu n'existeras pas. » Mais il n'existera pas. Et j'avais arrêté. Et puis, c'est pour ça que bébé miracle. Donc, premier test positif, test bêta positif, test deuxième bêta positif avec le bon, le bon truc. Et là, on l'a passé. Ce qui est bien, c'est que le confinement, plus personne ne posait de questions, parce que tout le monde se disait bien qu'on était les premières victimes de ce trouble van et qu'on était au fond du seau. Ouais. Donc, on a passé l'intégralité du premier trimestre, puisque la 12e semaine, c'était le 11 mai, le jour du déconfinement, puisque mes parents sont venus à la maison pour fêter le déconfinement, alors annoncé le jour même.
Ah,
donc,
excellent.
Le premier trimestre, on n'a pas besoin de mentir. Bon, on n'a pas passé un bon confinement parce qu'on a passé notre vie sur Instagram à être décomposé à l'idée qu'elle nous disait qu'elle avait plus de nausées, qu'elle allait mieux. On disait, ah, ça y est, elle est en train de tout perdre. Ça y est, ça y est.
Dès qu'on avait une nouvelle comme quoi elle avait plus de nausées, nous, elle est très contente, mais pas nous, en fait. Ça
c'est clair. Mais c'est vrai que, bon, voilà, après, c'est un peu, c'est chose classique, donc. Mais on a vécu le parce qu'on faisait tout en visio, en direct, donc le battement du cœur, la première écho, tout ça en direct. Et, bon, après, c'est une grossesse normale qui s'est parfaitement passée. Nous, on s'est vraiment lâché qu'après le 6e mois, on a acheté un tout premier truc en septembre, alors que la naissance était prévue en novembre. Et puis, bon, après, ça suit son cours normalement. On finit par y croire, on l'annonce, tout va bien. Aucun pépin pour la grossesse. Et puis, voilà, on est allé en Californie.
En Caroline du Nord, pardon,
parce qu'il a donc été conçu en Californie, mais il est né en Caroline du Nord. On est parti le jour du 3e confinement avec suspension des vols. Le lendemain, avec Maud Air France disant nous maintenons les vols de ce week-end, mais à partir de lundi, retour de la Toussaint en sub surtout. Donc, bien sûr, j'en passe, mais on a eu d'abord toute la procédure que connaissent d'autres pères qui ont eu ça pendant ce temps-là, d'obtenir un laissez-passer à l'ambassade américaine pour pouvoir aller récupérer notre bébé. Un vol Paris-Atlanta, on était 5 dans l'avion avec 12 000 papiers à montrer au marshal à l'entrée pour être sûr qu'on n'était pas en
France. Il y avait prise de température.
Prise de température.
Le lenti, c'est d'avoir chopé quelque chose avant de partir.
Voilà, et puis, c'est clair. Et pareil au retour. Covid, ça pour rentrer, on a mis un peu de temps à rentrer, mais on avait le bébé.
Voilà, une fois que t'as le bébé, c'est pas grave si tu restes 3 mois sur le
train. Puis après, tout s'est hyper. Et pour le coup, notre relation, tout s'est hyper bien passé. Sur place, c'était super. L'accouchement, tout s'est très bien passé. Depuis, on a gardé contact.
Et puis, ils sont venus pour le premier anniversaire, pour le moment à Paris. De Gaston,
elle voulait qu'on recommence tout de suite. Elle avait dit, on recommence tout de suite. Donc, nous, là, on a dit que non. C'était finito. Donc, entre-temps, elle a eu un autre bébé par GPA. On était en contact avec le couple. Je trouve ça super sympa d'avoir un petit lien. Et puis, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut écouter l'histoire jusqu'au bout pour savoir que tout finit bien. Tout finit bien, mais quand même, pour tout ce parcours, on nous avait dit, vous verrez, vous oublierez, vous verrez, vous verrez. Franchement, moi, je me rends compte que quand des gens autour de nous continuer à le faire, notamment Beverly quand elle a eu cette nouvelle aventure avec un couple israélien, où ça a marché du premier coup. En fait, ça reste une douleur parce qu'on se dit mais pourquoi pas nous, pourquoi on nous a privé, pourquoi on a dû passer par là. Évidemment, s'il fallait refaire exactement pareil pour le résultat d'aujourd'hui avec ce Gaston là qui est extraordinaire, on ferait pareil. Mais pourquoi nous et moi je trouve que ça n'a jamais disparu totalement. Et par exemple, quand notre grossesse a marché, on avait repris contact avec le groupe de parole parce qu'on disait ah, ça y est, c'est parti, tout ça. Et un des garçons, on a dit bah ça y est, on a un test positif. Au lieu de me dire ah on est vraiment content pour vous, c'était bah alors vous voyez, ça servait à rien dans cet état-là.
Ah oh, punaise.
Enfin, et eux, ils avaient eu leur premier bébé du premier coup, son premier. Enfin, il y a une sorte de rancœur. Ils disent personne n'y est pour rien, hein, ça personne n'y est pour rien. Et moi, j'avoue, je suis jamais passé totalement. En fait, on n'a jamais réussi à reprendre avec ce groupe-là. Et
pour d'autres raisons, c'est bien.
Et pour d'autres raisons, oui. Oui, c'est vrai que tout ça correspond du moment où les liens sont difficiles.
Et puis moi, les enfants, c'était possible plus compliqué.
Mais je continue. Alors, bon, c'est vrai qu'avec le temps, quand même, si c'est vrai que, mais disons que ça ne s'est pas effacé avec la naissance. Là, ça commence à s'effacer. Ça, je ne réagis pas à chaque fois que d'autres ont un enfant le premier coup ou des copains qui ont leur deuxième enfant. Vu qu'en fait, on n'est plus tout dans la même projection. Nous, on a. On veut pas de deuxième enfant, et donc on a aucune, me projette pas sur ceux qui en ont un deuxième du premier coup, puisque c'est pas mon histoire, il n'y a pas de deuxième chez nous. Mais c'est vrai que ceux qui ont un premier enfant, un premier coup, je continue à me dire, oh là là.
Une pointe de jalousie, pour moi, en tout cas.
Ouais, ou une pointe d'envie de dire, vous n'avez pas tout ce petit nuage qui restait là, et qui pourtant n'empêche pas de profiter de Gaston, hein, et ça n'est pas devenu l'angoisse perpétuelle qu'il meurt du jour au lendemain, ça de toute façon, tous les parents l'ont, et on l'aurait eu quand même. Mais ça ne s'efface pas, quoi. Ça ne s'efface pas. Et bon, évidemment, ça apprend une sensibilité meilleure pour toutes nos copines qui peuvent avoir des fausses couches. Et le discours qu'on entend un peu maintenant, mais qui n'est pas non plus assourdissant, sur le fait qu'il faut accompagner les fausses couches et le fait que c'est un deuil. Et c'est certes peut-être pas un deuil d'une personne, hein, clairement, je parle dans ce discours-là, parce que sinon, c'est... Ça donne du
c'est
moulin.
Pas le deuil d'une personne, c'est le deuil d'une projection.
Mais c'est le deuil d'une vie, parce que ce Gaston, c'est pas exactement l'enfant qu'on a eu. Alors, il est. Enfin, je sais pas comment il aurait pu être mieux, donc c'est pas ça. Mais à un moment, notre toute première grossesse, quand on n'imaginait pas que ça ne pouvait pas marcher, il se trouve qu'elle a correspondu à quelques jours près avec la grossesse d'une de mes consoeurs bien connue de la communauté LGBT aussi. Une de mes copines et enfin de sa femme plutôt, et donc à un moment on a imaginé que nos enfants allaient être jumeaux, et on se voyait beaucoup à ce moment-là, et bon après il y a la vie, et notamment ça aussi je pense que on s'est pas vu, parce que quand leur fils est né, pour moi c'est toujours la naissance d'une autre, et ça a continué, et même maintenant je me dis ah tiens, on aurait eu parfois... Ah tiens, il aurait eu 3 ans, d'abord, ça va peut-être moins fatigué parce qu'on est plus âgé. Hein. Et qui sait si on n'aurait pas eu un deuxième, peut-être, parce que c'était pas exclu au début. Maintenant, ça l'est pour plein de raisons. Enfin, ça s'est imposé quand il est arrivé. Il y a eu un côté, ça y est, on est au complet. Enfin, une sorte de miracle, on est au complet.
C'est surtout deux raisons. C'est un, la question financière, parce que tout ce process, avec les différentes étapes, les changements, etc., plus ça dure longtemps, plus ça coûte de l'argent. Et une GPA, à la base, c'est pas donné. Mais quand on a des problèmes, ça l'est encore moins. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui lorsqu'ils ont un problème, n'ont pas forcément les moyens financiers de continuer.
Ah bah ça, c'est terrible. Ça commence sa GPA avec un budget serré.
Dans certains côtés, je pense que nous, on a eu la chance d'avoir les moyens de continuer. Parce que si on n'avait pas eu, on aurait arrêté. Et peut-être que les 0,1% des personnes qui n'y arrivent pas, c'est... peut-être que tous auraient eu un enfant à la fin, mais qu'il y a des éléments qui font qu'on ne peut pas continuer.
Mais bien sûr.
Bien sûr. Mais déjà, nous, on ne peut pas forcément continuer.
J'allais venir, et moralement. Ouais. Il y a quand même une question de psychiquement, c'est épuisant. Et puis après, il peut y avoir aussi un impact sur le couple.
Mais c'est ça, j'allais vous poser la question du couple dans tout ça.
Et ben, franchement, tout le monde nous a posé la question, même pendant le process. Ouais. Franchement, je pense notamment parce qu'on est deux garçons qui vivent la même chose, comme je l'ai dit dans le premier épisode. La différence d'un couple hétéro ou d'un couple de femmes où il y en a une des deux qui vit un truc un peu différent de l'autre. Et donc, on peut se comprendre, se soutenir, mais il y a un moment très personnel, j'imagine, pour la femme qui n'y arrive pas. Et en plus.
Il y a de la culpabilité.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus, se rajoute certainement un réflexe de culpabilité parce que c'est son corps. Tout ça. Donc, tout ça, on ne l'a pas vécu, ce qui fait qu'on a vécu, on a eu la même expérience. On l'a vécu différemment nos émotions, on a eu la même expérience, ça a dû nous aider. Mais c'est vrai que. On est sorti un peu miraculeux parce que tout le monde disait comment va le couple, et franchement le couple a été bien. Le couple il souffre beaucoup plus
maintenant.
D'un petit garçon de 2 ans et demi adorable mais infernal qui nous pousse à bout que de la grossesse
tout notre temps
que de la grossesse, mais pour le coup on a bien le sentiment que c'est quand même une chance d'avoir traversé ça, et je pense qu'on se remettrait pas en danger. Et puis en fait, pour moi, quand il y a eu Gaston, il y a un côté ça y est, on a eu la phase de construction. Maintenant, on a la phase de vie à trois. On a effectivement encore l'âge et les moyens de pouvoir rebondir, rembourser tout l'argent qu'on doit à tout le monde. Et revivre bien à trois. Alors que si on recommence maintenant, qu'on recule à nouveau le moment où on va rebondir, et puis on a changé de vie, on est passé en province, tout ça, il y a vraiment un côté, on a construit la famille, elle est là, maintenant on vit la famille. Et franchement, ça n'empêche pas qu'on n'a toujours pas détruit les embryons qui restent. Il y a quand même quelque chose dans la tête qui nous empêche de le faire. Mais en fait, je crois que c'est juste on a plein de trucs, on n'arrête pas de repousser le rendez-vous. Et peut-être qu'il y a certainement un psy qui nous dirait qu'il y a autre chose derrière. Mais on ne se challenge pas du tout la naissance d'autres enfants dans notre famille, genre des deuxièmes neveux. Alors là, moi, je m'étais dit, quand mon frère aura un deuxième bébé après l'autre, on se dira peut-être. Alors là, pas du tout. Il est adorable, mais je ne le projette pas.
On a aussi 45 ans, et avoir un enfant en 45 ans. Moi, c'était aussi une de mes angoisses dans la GPA, c'est que je me trouvais déjà, quand on a dit un go, je me trouvais déjà un peu vieux pour avoir un enfant, et j'avais quoi, 37 ans.
Alors là, tu t'idéalises beaucoup, puisque.
Non, c'est vrai. 39.
On a fêté nos 40 ans, c'était la première année, puisqu'on espérait l'annoncer. En fait, t'as raison.
Moi, psychologiquement, je me disais, il fallait que ça arrive avant mes 41. Voilà. Donc, on en a été long, parce que c'est arrivé à 43 semaines. Donc, il y avait aussi ce côté-là. Et juste pour rebondir dans le couple, effectivement, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas faciles à gérer, notamment lorsqu'on n'est pas au même niveau de ressenti émotionnel.
Moi, je pense que les moments qui étaient difficiles pour moi, c'était quand Florent était complètement au fond du gouffre et que moi, j'essayais de me sortir, de pas trop y penser et de me changer les idées. Et qu'en voyant Florent pas bien, ça me replongeait dedans. Et peut-être que l'inverse a été vrai aussi. Donc, quand on n'est pas au même diapason en termes de mood, ça peut être
ressenti, difficile. Ouais.
Ouais. Ouais, enfin, le truc était dur.
Ouais.
Partage, je veux dire.
Donc non, c'était une aventure longue, douloureuse, même si elle est très belle à la fin.
Et alors, au final, on a eu l'expérience, comment dire, un petit peu
complète.
Enfin, complète, je sais pas, mais idyllique. Au final, on l'a eu, l'expérience idyllique. C'est juste qu'avant d'y arriver, le chemin a été très long, très très long.
Oui.
Donc, effectivement. Au final, on a une très bonne relation avec la porteuse.
Au final, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a cumulé les difficultés biologiques qui, là, sont incontrôlables et que tout le monde peut connaître, même si c'est encore une fois, c'est rare d'en connaître autant. Et les difficultés au début de gestion de la relation personnelle, commerciale avec l'agence, la pression de devoir dire oui, parce qu'on est tellement en demande que...
Je pense qu'on a... Chaque parcours est différent. Le nôtre, il est un peu représentatif de pas mal de petits points qui peuvent, pas aller, sans être autant extrémiste. Par exemple, nous, on a d'autres amis qui ont une relation pas facile du tout avec la mère porteuse, très froide, pas du tout d'investissement émotionnel, qui donnait pas de nouvelles pendant la grossesse. Nous, on aurait été fous, de pas
revenir. Ah ouais, tu m'étonnes.
Nous, on n'a jamais eu ça. Enfin, nous, notre parcours, les difficultés qu'on a connues, il y en a d'autres, en fait, qui peuvent aussi...
Là où on n'a pas eu de chance, c'est qu'on a cumulé plein de petits bugs, qui fait qu'on se disait que c'est pas possible.
La première relation n'était pas optimale, on a dû changer, la relation avec l'agence n'était pas optimale non plus, la première.
On s'est souvent dit, c'est pas possible, ça peut pas nous arriver ça, à nous en plus, on a déjà eu ça, en gros, on a eu notre lot. Et en fait, c'est ça qui a été dur, c'est qu'on a, on a eu...
Ouais, vous avez cumulé, quoi.
Mais les deux choses qu'on a évité, qui auraient été, je pense, très dures, c'est effectivement la perte de bébé en cours de grossesse, ça sera difficile et surtout par rapport au Covid, on est quand même bien passé entre
les deux. Ah oui, alors là, ça c'est vrai. Alors là, pour le coup, c'est sûr. Si ce dernier essai n'avait pas marché, qu'on a dit bon, maintenant on attend de faire de nouveaux embryons, donc la levée de l'interdiction de vol américaine qui a duré je sais plus combien de temps, mais.
Oh, mais hyper longtemps, elle a été levée en novembre 2022.
Bien au moins deux ans, c'est ça, pour parler, on va arrêter.
Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi un partage sur l'objet du podcast, ce qui ne fonctionne pas, parce que quand on se lance dans le process, on a cette vision un peu, tout va bien se passer, tout est idyllique et ça va arriver et il y aura encore problème. Et en fait...
C'est une vision qui, encore une fois, est assez fondée. Puisque
oui,
c'est là,
parce qu'au final, tout le monde a eu des petits problèmes.
Oh non, c'est pas vrai.
Que ce soit avec l'administration, que ce soit avec le...
Non, alors là, je pense que Benoît, tu retiens ça pour te rassurer, mais non, on a eu autour de nous des gens, et plusieurs, qui...
Bon, quand ton problème arrive, il vaut mieux savoir que ça peut arriver avant qu'il arrive, plutôt que d'avoir cette image un peu idyllique. Après, il faut aussi avoir peut-être aussi un côté un peu inconscient quand on sent cette aventure. Parce que sinon.
Ah, bah c'est sûr que. On pourrait jamais savoir ce qu'on aurait fait si on avait su. Parce qu'on pourrait jamais
quand
savoir.
Même, je pense.
Mais. Oh bah, je sais pas. Il y a eu des vrais moments où on s'est dit, mais pourquoi on s'inflige ça
Oui.
Ouais, après, je pense que voilà. Si tu avais connu le résultat, ce qui est dur, c'est l'incertitude dans ces parcours. Bah, comme dans n'importe quel type de parcours de parentalité, parce que ça, c'est, pour le coup, c'est universel. Mmh. Mais l'incertitude de savoir quand ça va fonctionner et si ça va fonctionner. C'est rude. Et puis je pense que l'humain sait pas gérer les incertitudes. C'est d'incertitudes, c'est compliqué. Mais en même temps, j'ai l'impression. Alors après, moi, je sais pas du tout la même expérience, mais c'est vrai que nous, on a vécu une grossesse hyper compliquée pour les numéros 2, qui fait que derrière, ça nous a permis de relativiser, franchement, toutes les difficultés qu'on a rencontrées, enfin tout avec les enfants, quoi. Pendant bien 2 ans, on s'est dit ok, c'est dur, mais on sait d'où on vient et on est contente que ce soit dur, quoi.
Je suis pas sûr qu'on soit dans ça.
aujourd'hui, on l'a quand même à côté. Bon, on sait pourquoi c'est normal de passer par là. Et bon, c'est quand même super d'avoir à vivre cette expérience.
Oui, bien sûr, mais moi je ne dis pas du coup, je pense pas que mon expérience présente me fait relativiser le côté difficile de l'éducation.
De l'éducation, oui.
De 2 ans et demi. Mais bon.
Ouais, 2 ans et demi, c'est, enfin, ouais, c'est une période. Faut s'accrocher.
Oui, et puis on découvre qu'en fait, après 2 ans, il y a 3, puis il y a 4, et puis que ça se termine vaguement vers 7 ans, quoi, et pour enchaîner sur le truc.
Donc, c'est ça, là, moi, je suis dans une espèce de lune de miel jusqu'à la préadolescence.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas que l'adolescence, quoi. Il y a la pré, la poste, t'es là, mais c'est pas possible.
Ouais. Bah, là, que les 2 ans, c'est une crise aussi d'adolescence.
Ah ouais, mais c'est costaud. Ouais.
Et on voit bien qu'il est en pleine construction et que
ouais.
C'est lui-même, il sait pas tout ce qu'il veut. Hein.
Enfin, non, mais déjà, nous adultes, des fois, on sait pas ce qu'on veut. Alors t'imagines bien qu'un enfant. C'est compliqué, quoi. Au niveau maturité, ils se construisent, ils sont pas du tout finis, quoi.
Des incompréhensions par rapport à l'érection.
C'est ça. C'est pas grave si la cuillère est rouge au lieu d'être bleue. C'est pas grave, ça marche quand même, c'est une cuillère.
Oui, ça, c'est exactement ça.
C'est vrai.
Non, mais ça franchement, à 8 ans, mes filles, des fois, elles le font encore. Quoi, donc,
ah oui, ah mince, faut pas nous dire ça.
Non, mais alors, pas dans le même.
C'est de nous mentir, de nous dire que ça va bientôt finir.
Ah oui.
Même si c'est pas le cas.
Non. Ça va bientôt se finir. Il faut se dire que tout est un cycle. Il y a toujours un début et une fin. Vers quoi, on ne sait pas. Vaut mieux pas savoir. Il y a toujours un début et une fin. Non, mais des fois, encore à 8 ans, oui, elle préfère avoir une cuillère rose qu'une cuillère violette. Elle s'engueule, quoi.
Voilà. Et, elle est plus accessible, elle a raison à 8 ans.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu lui dis, c'est pas grave, mange ton yaourt, sinon il n'y a pas de yaourt. Bah, elle va manger son yaourt avec la cuillère violette au lieu de la rose, c'est pas grave, elle va manger.
Même qu'à 2 ans et demi, c'est
le yaourt vole.
Le yaourt vole et ça enclenche une suite de catastrophes jusqu'au coucher.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça. Ouais, non, ça c'est vrai. Je me souviens bien de cette période-là. Les triplets, elles ont 7 ans et la grande a 10.
Ah oui.
Non, moi je suis dans la ligne de miel là. C'est. Bon, c'est... Bah, ouais. On en profite.
Bien.
Il faut, je crois. Bon, mais en tout cas, c'est une sacrée aventure, votre GPA. Vous avez beaucoup de courage, je le disais justement à ma conjointe là tout à l'heure, en lui racontant, je raconte toujours mes enregistrements. Elle n'écoute pas mes podcasts, mais je raconte mes enregistrements. Et je lui disais, waouh, enfin, franchement, j'admire tous les couples qui persévèrent. Parce que je sais pas, en fait, quand tu t'es pas confronté, tu sais pas si jusqu'où tirer. Mais moi, je sais pas si on aurait persévéré, quoi. Surtout avec les coups que ça engendre pour vous. Déjà pour nous, on se dit, à quel moment on s'arrête?
Ouais.
Hein, tu vois? Et vous, voilà, vous vous rendez à l'autre bout du monde. Enfin, peut-être pas à l'autre bout du monde, mais presque. Ouais. Sur des coups qui sont, où vous rajoutez un zéro à tous les nôtres, voire deux.
Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, quand on avait vidé nos économies, coché la case pré-bancaire, coché la case pré-familiale, là, c'est sûr qu'il n'y avait plus grand-chose après.
Mais honnêtement, je ne crois pas qu'on ait jamais envisagé le fait de réellement d'aller de ne pas y jouer.
Mais tant qu'on l'a pas eu, parce que finalement il y a la dernière carte qu'on n'a pas jouée, c'était la carte on refait des embryons. Tant qu'il y avait ça, ça nous a aussi aidé. Il reste toujours la solution de refaire des embryons. Par contre, franchement, on le saura jamais, mais le coup de on refait des embryons. Par contre, dans 2 ans, quand la Terre entière se sera remise de ce virus, alors là, je pense qu'on se serait vraiment dit on est maudit, c'est pas possible quoi. Le truc qui n'est jamais arrivé, nous arrive dessus. Donc peut-être que si effectivement ça n'avait pas marché Gaston et qu'on avait pu aller en Californie un mois après pour refaire les embryons comme prévu et qu'on reparte, peut-être qu'on aurait continué comme ça. Mais
et dans notre expérience, on n'a jamais vraiment dit, on l'a envisagé parce qu'on y pense à un moment ou à un autre, mais ça n'a jamais été mis sous le tapis comme une réelle.
On ne s'est jamais posé la question d'essayer d'arrêter ou de continuer.
Ouais. Et quelque part, je pense que ça. Enfin, tu vois, si la décision avait été mise dans la balance, même si la réponse avait été oui, on continue, je pense que c'est encore un autre état d'esprit. Enfin, tu vois, c'est encore un autre mood où là, tu subis vraiment, enfin, je pense que vous l'avez énormément subi, hein. Mais ouais, en plus, quand tu te dis, on a pris la décision de continuer malgré tout, et on s'inflige, finalement, tu te dis, on s'inflige encore des souffrances, quoi.
Oui, on décide, on dit, allez, on y va. Oui, il y a encore une petite maîtrise, en fait, dans le fait de décider de continuer. Et ouais, ça aide.
Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'en plus de ça, je suppose qu'ils sont tellement peu confrontés à ce type de situation qu'il y a un moment où ils n'ont pas forcément non plus des solutions extensibles. Enfin, ils ont un plan B, mais ils n'ont peut-être pas de plan C, quoi.
Ah bah non, d'autant que quand on a voulu négocier notre contrat avec l'agence américaine, donc la dernière agence, et qu'on a commencé à discuter qu'est-ce qui se passe en cas d'échec et qu'est-ce qui se passe en cas de rematch, c'est-à-dire est-ce qu'on doit vous repayer ? Ils nous ont écrit « Non, mais ça n'arrive pas. Non, mais non. » Et nous, je me souviens, on s'est dit « Bon, ça ne va pas nous arriver deux fois. » On ne va pas une troisième fois arriver à trois échecs et donc devoir changer ma porteuse. Ce qui fait que quand on est arrivé aux trois échecs avec Beverly avant qu'elle nous dise oui, je veux continuer, on s'est dit, mais si ça se trouve, l'agence va nous planter. C'est plus dans le contrat où on va devoir recommencer. Donc elle ne reproposera pas quelqu'un puisqu'on est arrivé à l'option qu'on a envisagée avec eux et qu'ils n'ont pas voulu contractualiser parce que ça n'arrive jamais.
Oh là là là.
Donc,
ouais, c'est oui, puis en plus je pense que vous, de par votre métier, forcément à un moment donné vous bardez, en fait. Ça vous rassure,
on n'est pas en position de force
en fait c'est le pire. C'est du fait de notre métier, on a conscience de ce qu'il y a dans les contrats, mais du fait de notre statut de demandeur et de celui qui veut une main porteuse, on n'a pas discuté, on est les plus mal chaussés, hein. Nous, je peux dire qu'on a des copains qui ont discuté plus leur contrat. Nous, on s'est dit, nous, tout ce qu'on veut, c'est OK, bon, bah, d'accord, bah, tant pis, bah, écoute, on espère qu'effectivement, ça se posera pas la question, parce que sinon, bah, on verra bien, ils pourront nous demander ce qu'ils voudront, bah, on verra bien. Donc, je pense que notre contrat n'était pas le plus bordé du tout. Par contre, on était peut-être très, très conscient des limites du contrat et de ce qui risquait de se passer si les hypothèses que personne n'a voulu envisager, parce qu'elles sont trop rares, se présentaient vraiment. Hein.
Ouais.
Donc tout ça ne donne pas envie de recommencer, de se remettre dans ce stress, c'est sûr.
Mais c'est clair. Là, vous êtes passé sur une autre étape de vie et je comprends complètement que. Oui,
tout ce match, et moi j'avoue qu'en tant fils unique, j'aurais bien aimé que Gaston ait des frères et sœurs. Mais je vis très bien le fait qu'il n'en aura pas.
Bah, moi aussi.
Hein. Là,
c'est comme ça.
Exactement, c'est comme ça.
On a nos choix aussi, l'autorité partielle. C'est pareil que pour tout ce qu'on lui expliquera, on dit, ah bah, c'est notre choix. Alors on lui expliquera qu'on est tête de ménage, on lui expliquera pourquoi. Mais c'est notre choix, c'est nous qui sommes en position de décider de la composition de la famille. Oui, et donc, c'est notre choix. C'est comme
il faut aussi prendre en compte l'intérêt de l'enfant à venir, qui va arriver avec des papas qui seront.
Oui, pas au point d'en faire un autre. L'intérêt de l'enfant ne va pas être juste au point.
Non, mais je veux dire, c'est les dossiers.
Non, de l'enfant à venir, ouais.
Ah oui, pardon.
Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, enfin, moi, là, actuellement, j'ai 41 ans. Honnêtement, bon, alors c'est peut-être parce que j'ai les nuits des triplés dans les pattes qui ne les font presque toujours pas, mais je me relancerai pas dans des nuits. Je veux dire, si on avait eu l'idée de faire un petit cinquième, rien que les nuits des triplés, elles nous ont vaccinés.
Pourtant, nous, les nuits, je la change.
Non, mais voilà, mais je pense que l'expérience de chacun nourrit sa décision ou pas.
C'est ça. Exactement.
Sur les nuits.
On ne peut pas tout avoir.
Non. Ça fait une semaine. Voilà. On va savoir pourquoi. Mais nous, cette question de. On n'a pas d'enfance, c'est nourri par.
C'est le projet.
Non, par l'âge.
L'âge, le projet. Non, le projet.
Oui, même je ne veux pas la durée que 45 ans.
Et puis oui, parce qu'on a encore 10 ans à devoir faire du foot dans la cour. Donc...
Déjà, quand je cours avec lui dans les bras et qu'il me dit pourquoi t'arrêtes, je dis je suis vieux donc.
Non, moi aussi.
Je peux plus aller plus loin.
Bon, ça va quand même, vous n'êtes pas des papas hyper âgés. Hein.
Voilà, on cumule la fatigue des deux dernières années, donc l'absence de reprise en main. Donc...
Non, on voit qu'on est moins alerte que des papas un peu plus jeunes que nous qu'on fréquente.
Je pensais qu'on rebondirait plus vite. Tout le monde disait, oh oui, c'est normal, c'est le début. Bah, et je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrête le début, là.
Non, mais attends. Enfin, moi, ça ne me paraît pas anormal. Je veux dire, on le dit, le postpartum dure 3 ans, quoi.
Ah ouais, bon, bah voilà.
Alors, ok.
Comme on n'a pas le produit de l'accouchement, on aurait dû gagner quelque temps. Hein.
Vous n'avez pas vécu la grossesse qui fatigue le corps. Ouais. Mais quand même, je veux dire, il y a tout l'après, quoi. Il y a tout. Et puis vous avez vécu un parcours qui, certes, vous n'avez pas porté l'enfant, mais vous avez toute la fatigue psychologique. Et ça, c'est épuisant de votre parcours.
Oui, mais c'est vrai.
C'est
épuisant. C'est épuisant moralement et physiquement. Hein. Le corps prend un coup. Hein.
C'était vrai, je pense que ça a joué sur pas mal d'autres aspects d'ailleurs de notre vie personnelle et professionnelle, j'imagine. Mais bon, si c'est 3 ans, ça va, on arrive au bout du tunnel.
Oui, ouais, ouais, voilà, c'est 3 ans.
En 2023, on fera du sport, on va se mettre en maillot, on va avoir honte. Voilà.
Non, mais de toute manière, il y a un temps pour tout, hein, honnêtement. Je veux dire, c'est normal qu'il n'y ait pas de reprise en main, parce qu'il y a un moment donné où toute votre énergie est focalisée sur votre enfant. Quand votre enfant demandera moins d'énergie, vous en aurez à nouveau pour vous.
C'est une question de rythme et de temps disponible, hein, honnêtement.
Exactement. Là,
mais d'énergie, c'est vrai que c'est surtout l'énergie de rien d'autre que ça.
Ben c'est ça, mais c'est parce qu'il en demande beaucoup, et puis après vous vous rechargerez petit à petit et vous verrez que la vie reprend son cours.
Bon, en tout cas,
voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages, les deux enregistrements, du coup. Je pense que c'était hyper important. Je dis pas que j'enregistrerai, déjà, parce que j'ai pas eu de proposition de témoignage, mais je pense pas que j'enregistrerai d'autres épisodes autour des difficultés qu'on peut rencontrer sur une GPA, parce que comme vous l'avez dit, bah, la plupart du temps, ça se passe bien. Mais c'est hyper important, quand on est confronté à ces situations, d'avoir le témoignage d'autres personnes pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas maudit. C'est, ça arrive. C'est la loi de Murphy un peu, parce que vous accumulez, mais ça arrive.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cela fait plusieurs semaines que j'arrive à vous diffuser des épisodes enregistrés avec des papas, et cela me fait vraiment plaisir parce que je n'arrivais pas à atteindre ces familles. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai essayé bien des fois. Il m'aura fallu 3 ans de diffusion hebdomadaire pour que la confiance s'instaure et que maintenant, les papas me confient leurs histoires. Et je le comprends. Parce que comme le dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Il ne faut pas oublier que leurs parcours sont encore clandestins, qu'obtenir les documents d'officialisation de leur famille dépend encore trop de la bonne volonté de juge et de la stabilité des lois. Alors c'est paradoxal, me direz-vous, parce qu'il faut aussi que les lois avancent, clairement. Et surtout pour les familles, j'ai été bien trop souvent exclue des débats. J'ai peut-être une vision trop ambitieuse en pensant que visibiliser toutes les familles peut faire la différence, faire changer quelques esprits de position et ainsi faire avancer la sécurisation de ces familles. Si vous aussi vous souhaitez témoigner de votre parcours, n'hésitez pas à me contacter pour que nous discutions de la faisabilité de vos envies. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire par le biais de la page Steady du podcast, dont le lien se situe en bio du compte Instagram @lesenfantsvontbienpodcast. Si vous souhaitez me soutenir autrement que via la page Steady, parce que votre soutien, quel qu'il soit, est précieux, vous pouvez aussi donner au podcast plus de visibilité, notamment en partageant la page Instagram du podcast ou les épisodes dans vos stories. Vous pouvez le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. Jesus Christ, tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone.